Pour les puristes de long cours, et croyez-moi, il en existe, l'émission de la semaine dernière et l'émission de ce soir sont des émissions un peu particulières. Maurice Efti, vous êtes en direct de Genève Mode, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de voyager.
Surtout pas, non. J'ai même envie de broder un peu ce soir. J'ai même envie de suivre un fil, de vous suivre, Phil. C'est-à-dire, en fait, de partir à travers l'idée de la mode, un peu comme on l'a fait la semaine passée, à travers l'idée du textile, de faire un voyage qu'on pourrait commencer, pourquoi pas en Europe, mais finir peut-être en Amérique.
Alors il y a quelque chose qui me surprend bien évidemment dans vos propos, c'est l'Europe. Est-ce que, à votre avis, l'Europe est le berceau de la mode ?
Non, là il y a plusieurs Europes. Tiens, vous me faites penser, puisque vous parlez de fil, à Europe. Vous vous rappelez de l'enlèvement d'Europe ?
Oui.
C'est simplement parce que j'adore voyager. Il y a quelques heures, j'étais à Madrid. C'est aussi l'Europe, Madrid. Après tout, ça a été peut-être même la capitale d'une certaine Europe. Et là, je repense. La semaine dernière, on avait parlé d'étiquette, on avait parlé de costumes, on avait parlé de la cour d'Espagne, on avait parlé d'habits noirs. Je m'habille volontiers en noir, mais puisqu'on parle de mode, mais je viens de vivre un week-end absolument éblouissant. Vous savez, il y a un événement incroyable qui est en train de se dérouler à Madrid en ce moment. C'est un peu l'ouverture des grands feux de 1992-1992 qui représentera non seulement l'entrée dans l'Europe, mais aussi bien sûr le 500e anniversaire de la rencontre avec cette Amérique dont on parlera beaucoup ce soir. Eh bien, on vient d'organiser, plus exactement le musée du Prado vient d'organiser une rétrospective absolument éblouissante sur un des plus grands peintres du monde, peut-être le plus grand. Il s'agit bien sûr de Diego de Silva Velázquez, qui a fourni au XVIIe siècle peut-être les exemples les plus remarquables du textile. Et là, je parle vraiment du textile, c'est-à-dire une matière picturale qui sort totalement de l'ordinaire. Et quand vous avez dit Europe, quand nous avons dit involontairement Europe tout à l'heure, je repense maintenant à cette toile absolument sublime. C'est très difficile de parler de peinture en radio, mais j'aimerais vous emmener dans cette salle du Prado. Ce soir, dans quelques minutes, ce musée va fermer. Cette exposition Velázquez va se terminer à la fin de cette semaine. Il y aura peut-être 1 million de personnes qui l'auront vu. C'est une des expositions qui a attiré le plus de monde en Europe ces derniers mois. Il y a eu des émeutes, il y a eu des problèmes époustouflants pour visiter cette exposition. Je vous avoue que j'étais un peu privilégié et que j'ai pu la visiter ce week-end de l'intérieur, entre les guillemets. Et je me suis trouvé devant le tableau qui se nomme « Les fileuses ». C'est bien un thème qui nous correspond et je pense à cet enlèvement d'Europe qui se trouve tout à fait au fond de la toile, sur une superbe tapisserie. Et Europe, bien sûr, elle est enlevée sur le taureau et juste en face, il y a Minerve. Vous connaissez cette légende. Ce qui est très beau, c'est de voir en premier plan celle qui a osé broder, tisser cette incroyable tapisserie sur un thème un peu révolutionnaire, puisqu'en fait, elle se moque en même temps de Minerve, qui elle est la fileuse par excellence. Il s'agit d'Arachné, qui va en fait être transformée en araignée. Vous voyez que c'est une belle histoire, parce que c'est une véritable histoire de fileuse, c'est une histoire de fil, bien sûr, c'est une histoire de textile. Et toute la soirée, enfin pendant une heure, on va essayer de suivre ce fil conducteur. J'aimerais qu'on aille même jusqu'au plus lointain passé, et qu'on retrouve à travers une momie, à travers ce qu'on appelle un fardeau, à travers ce qu'on appelle un tissu ancien, l'âme véritable de ce qu'a été non seulement le fil, mais le coton, la laine, tout ce qui va permettre à l'homme de se vêtir en partant peut-être simplement d'une feuille de vigne, en partant d'Adam, en partant du rapt d'Europe, en partant des mythes en fait. on entend l'ambiance générale, plus exactement, on entend même les annonces qui sont faites sous cette tente. Nous sommes à Radio Lac, oui, nous sommes à Radio Lac, nous sommes à Genève Mode surtout, nous sommes en plein palais, le tram vient de passer, mais nous étions en fait en train de suivre un fil, nous étions en train de suivre une histoire. J'aimerais que pour quelques instants vous oubliez un peu le bruit, ou plus exactement que vous pensiez que vous êtes toujours dans ce musée du Prado avec quelques milliers de personnes. Vous êtes devant cette toile défileuse, celle de Velázquez dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que le miracle d'un peintre, d'un artiste ou d'un styliste, pourquoi pas, c'est de transmettre ce que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire, je suis dans une halle totalement de toile, je vois un décor de toile, je vois un décor qui a même été peint et qui représente des rideaux, des toiles. On est dans une ambiance totalement décorative, et quand on se trouve devant un chef-d'œuvre absolu, quand on se trouve devant une toile comme celle des fileuses dont je parlais tout à l'heure, cette toile où Arachné va être transformée en araignée et devenir le symbole même des fileuses, eh bien, on comprend que pour un pinceau, pour un peintre comme Velázquez, il s'agissait de transcender l'image, c'est-à-dire se trouver sur deux plans et d'arriver en même temps par, à gauche, une femme qui d'ailleurs, au point de vue positionnement, ressemble étrangement à cette façon dont Michel-Ange peignait dans la chapelle Sixtine, c'est-à-dire vous avez ce personnage à moitié couché, à moitié assis, et sur la droite vous avez un deuxième personnage tout à fait semblable, une fileuse à gauche avec son rouet qui tourne très très vite. On dirait que Velázquez avait même inventé la vitesse de la roue, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les rayons de cette roue, on voit la transparence, on est presque déjà dans une peinture impressionniste, et de l'autre côté vous avez quelqu'un de dos qui est enfin Arachné sous la forme d'une simple femme qui travaille, et elle est en train de préparer un fil, on voit sa quenouille, on voit son travail extrêmement raffiné, et au deuxième plan il y a plusieurs femmes, on aperçoit ce décor que je vous décrivais tout à l'heure avec cette tapisserie de l'enlèvement d'Europe, un peu dans le style de Rubens, enfin on est en plein baroque, et il y a surtout une matière pour rendre les couleurs et les tissus. J'ai maintenant en face de mes yeux quelqu'un qui vient d'entrer dans cette salle et qui est habillé en corsaire et qui me donne vraiment l'impression d'être dans un endroit théâtral, d'être dans un décor un peu baroque. Ce soir, je sais que dans quelques minutes, on aura cette ambiance un peu folle puisque le thème que vous rappelez tout à l'heure, Pierre-Michel, n'est-ce pas, oui. C'est corsaire et flibustier ou flibustiers et corsaires, si je n'ai pas inversé le titre. Et ça me permet un peu, de façon amusante, de traverser justement l'Atlantique. Parce que lorsqu'on parle de textile et qu'on essaye d'imaginer ce qu'a été l'homme primitif par rapport à cela, moi, immédiatement, j'ai envie de vous planter quelques plumes sur la tête. C'est-à-dire, j'ai envie qu'on se retrouve un peu dans la situation de l'Amazonien d'aujourd'hui, enfin, peut-être le dernier ou l'avant-dernier Amazonien d'aujourd'hui, c'est-à-dire cet indigène qui vit encore en rapport direct avec la nature et qui, au fond, s'habille de sa propre peau, c'est-à-dire a besoin simplement de manger, de se parer et de vivre, d'être beau par essence. C'est vrai qu'en parlant de mode, en parlant des tissus, on comprend que ce côté primitif, là j'ai envie de vous emmener au tréfond de ce qui est aussi le mythe de la mode, c'est-à-dire cette première plume que vous attraperez en attrapant le premier perroquet, cette parure qui va tout à coup vous transformer en chef d'une tribu. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant, et Phil, je pense que vous faites partie de ceux-là, vous étiez indien ou cowboy?
Moi j'étais plutôt Zorro.
Ça ne m'étonne pas, c'est moi qui m'habille en noir d'habitude. Ouais. C'était pour le Z bien sûr, ouais. Mais quand on se rappelle de ces grandes coiffes, des Sioux, des Apaches, enfin qui sont aussi des nomades, qui sont aussi des primitifs, on comprend que, au fond, comme nous portons une médaille, comme nous portons un badge, comme nous portons, je dirais même, une carte de visite aujourd'hui, eh bien, le primitif, lui, ressent simplement ce sens esthétique, a besoin de cette profondeur esthétique pour se... Tiens, là, quelque chose m'est tombé sur la tête. Vous entendez les bruits comme moi ?
Ah oui, c'est terrible.
Dans une ambiance superbe. Oui. En pleine jungle, avec des assiettes.
C'est fort à la mot.
Non, je reviens en Amazonie. C'est superbe de penser qu'à partir de ces premiers éléments, l'Amérique, puisqu'on a envie de suivre un peu nos routes de l'Eldorado, qui seront des routes qu'on suivra au cours de ces prochaines semaines, eh bien, au cœur de cette Amazonie, il y a quelques milliers d'années, un phénomène assez curieux. C'est-à-dire que tout à coup, dans une zone extrêmement plantes humides. Allez, mettons un peu d'ambiance, essayons de s'imaginer ces arbres de 30 ou 40 mètres de haut, ce côté fleuve, ce côté boue. Et là, vous avez quelques petites tribus, vous avez quelques hommes qui, par miracle, arrivent à subsister parce que, justement, il y a suffisamment de possibilités pour chasser. Il suffit de tendre la main pour aller chercher un fruit. Moi, c'est ce que j'appelle, que ce soit pour la préhistoire en Europe, que ce soit pour le néolithique, que ce soit pour mon amazonien qui est perdu dans la jungle, je crois que c'est vraiment le paradis terrestre. Le paradis parce que tendre la main pour prendre un fruit et simplement lancer la première flèche ou utiliser la première sarbacane pour tuer l'animal dont vous aurez simplement besoin pour vous nourrir et non pas que vous tuez pour chasser ou chasser pour tuer, eh bien, je crois que c'est quand même le moment où l'homme a été vrai. Et c'est curieux, si vous remarquez, cet homme-là est pratiquement nu. Je veux dire, ethnographiquement parlant ou ethnologiquement parlant, là je me lance dans une théorie un peu subjective, mais c'est vrai que cet homme-là n'a pas besoin de se vêtir. Il est, par essence, un homme complet. Ça, c'est le côté primitif. D'accord. Et vous êtes en Amazonie? D'accord. Et maintenant, le temps passe et les saisons changent. Je plaisante, mais c'est vrai que vous avez un grand changement climatique qui va survenir aux alentours de 8000 avant Jésus-Christ. Le moment où le détroit de Bering, pour cette Amérique, va se couper, c'est-à-dire que les dernières migrations vont devoir s'arrêter. C'est mon début de l'Eldorado, parce qu'au fond, pour que mon histoire de l'Eldorado existe, il a fallu que l'on puisse passer d'Asie vers un continent complètement vierge. Et là, en Amazonie, le climat va changer radicalement et c'est une théorie. C'est une théorie toute nouvelle, on vient de la découvrir il y a quelques mois. On a remarqué que l'Amazonie n'a pas toujours été l'Amazonie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, essayez de comprendre, la jungle que vous connaissez aujourd'hui, en tout cas par l'imaginaire ou par la télévision, eh bien, cette jungle s'est un peu asséchée. Il y a eu tout à coup quelques îlots qui vont permettre à ces Indiens qui étaient déjà là, de vivre différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'être de simples chasseurs, ils vont peut-être commencer à s'intéresser aux plantes. Et puis ils vont découvrir peut-être la première plante qu'ils vont pouvoir domestiquer. Et naturellement, quand on parle de l'Amérique, on pense immédiatement au maïs. Je ne vous dirai pas où a été planté le premier grain de maïs. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'un grain de maïs, après tout, au départ, c'était quelque chose qui faisait 2 à 3 cm, là je parle de l'épi entier, hein, 2 à 3 cm de longueur au maximum, et que petit à petit, avec 1500, 2000 ans d'histoire agricole, on va créer plus de 1500 variétés de ce maïs, et qu'aujourd'hui, quand vous tombez sur un marché indien à Cusco, ou même dans l'Amazon, ou au Pérou, jusqu'au Mexique, enfin dans tous les pays qui ont été touchés par les précolombiens, eh bien vous avez du maïs de toutes les couleurs, vous avez des variétés absolument incroyables. C'est l'aliment par excellence, c'est le riz d'Amérique, c'est le blé d'Amérique. Eh bien, à partir de là, mes Indiens qui se trouvaient dans l'Amazonie vont tout à coup avoir des ennuis, avoir faim, perdre leur paradis et devoir suivre, peut-être par bagarre interposée, par lutte intestine interposée. On m'appelle au micro, j'arrive, je suis encore là. Il y aura obligatoirement des gens qui vont devoir suivre les fleuves. Est-ce qu'on mettra un peu de musique, peut-être, Phil ?
Oui, je crois bien, hein, parce que...
C'est on vrai suivra que le fleuve tout à l'heure.
Suivre le fleuve, c'est une chose, mais ne plus l'entendre couler, c'en est une autre.
Glou, glou.
quelques Indiens d'Amazonie, un grain de maïs qui n'est peut-être pas celui que l'on connaît maintenant, et surtout le talent de Maurice Efti pour nous faire remonter un fleuve qu'on n'a jamais rencontré, qu'on ne nous remonterons peut-être jamais, mais qui existe et qui est bien là.
L'Amazone, c'est 6000 kilomètres. C'est quand je vous raconterai, certainement, Aguirre ou la colère de Dieu, enfin, Fitzgeraldo, les grands personnages qui tournent autour de cette Amazone, parce qu'après tout, c'est vraiment un Eldorado, l'Amazone. C'est peut-être le côté le plus primaire des choses. Et pour parler du tissage, pour parler de la parure, pour parler de la mode, je crois que c'est vraiment un des points qui nous touche le plus. Quand on voit un Indien, ben, rappelez-vous des grandes publicités de Sting ou d'autres personnes à propos de l'Amazone, c'est vrai que cet Indien qui arrive avec son plateau et ses plumes sur la tête, c'est la nostalgie avec un grand N, c'est-à-dire c'est tout ce qui non seulement fait votre enfance, mais fait votre valeur d'homme. Alors maintenant, vous prenez votre simple radeau, votre bateau. Cette Amazone, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monde, c'est une chose tellement large et tellement immense qu'il a changé de lit des milliers de fois. C'est vraiment l'eau la plus infidèle qui soit. Et c'est vrai que, archéologiquement parlant, nous avons beaucoup de peine aujourd'hui à retrouver les origines de ces premiers Américains qui ont vécu dans cet endroit. Parce que c'est vraiment l'endroit idéal pour, tout à coup, se sédentariser, pour transformer sa vie. Et à partir de là, la guerre étant existante de toute manière, ces gens-là vont remonter petit à petit le cours des fleuves. Ils vont remonter et petit à petit, ils vont se retrouver au pied des Andes. Et étant au pied des Andes, eh bien, théoriquement parlant, aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a qu'un endroit en Amérique du Sud qu'on peut traverser relativement facilement. C'est un endroit qui se trouve en Équateur. Et à partir de là, vous allez passer ce premier cap des Andes. C'est vrai que la région est sublime. Vous êtes passé maintenant de la jungle épaisse, humide. Vous arrivez tout à coup sur des hauts plateaux qui sont extrêmement verts encore. Vous avez des volcans qui fument à l'horizon. Vous avez cette fantastique vallée qui vous amènerait jusqu'à Quito. Non, nous n'allons pas la suivre. Nous allons carrément la traverser et nous allons tout à coup redescendre du côté de Guayaquil. Vous savez que quand on écoute l'encours, il faut toujours avoir une carte de géographie sous les yeux. C'est vrai que si j'imagine l'ensemble andin du Chili en Colombie, c'est exactement comme mon bras se trouve maintenant posé sur mon genou avec ma main ouverte. C'est-à-dire que vous avez un bras extrêmement long et puis tout à coup en haut, la main s'ouvre avec 5 doigts. C'est la Colombie. Et puis les doigts s'affinent, se terminent bien sûr et vous tombez naturellement déjà vers Panama. Vous arrivez en fait en fin de course. Et l'endroit qui est le plus facile à traverser, c'est le poignet. C'est assez logique. Je veux dire par là que c'est l'équateur qui va ensuite, curieusement, vous permettre de tomber du côté pacifique. Mais vous verrez, on a encore une bonne demi-heure pour essayer de découvrir cet autre côté de l'Amérique. J'étais dans l'humidité tout à l'heure. La seule chose que l'on puisse conserver quelques jours, c'est une belle plume de perroquet. Mais de l'autre côté, lorsque vous aurez passé ce cap des Andes, vous allez retrouver quelque chose qui est unique au monde. Ce sont ces milliers de kilomètres de désert absolu qui se terminent en Équateur sur une jungle absolue. Allez, je vais vous raconter un peu l'histoire des courants marins qui forment en fait le Pacifique. Comment commencer, pour être logique et pour faire comprendre ma raison textile de ce soir? Eh bien, vous commencez tout en bas. Allez, on descend juste en terre de feu. Vous savez qu'il fait un peu froid dans le coin. Et vous avez un courant extrêmement connu qui s'appelle le courant de Humboldt. Et ce courant est un courant qui monte carrément jusqu'à l'équateur et qui se bute même à l'équateur sur un autre courant qui, lui, vient naturellement du nord et qui suit la rotation terrestre et qui, lui, s'appelle le Niño. C'est un nom que j'aime beaucoup parce que Niño, ça veut dire l'enfant. Un enfant qui, de temps en temps, sort un peu de la norme et qui désobéit. Et c'est vrai que c'est la catastrophe naturelle que tout Américain craint, c'est lorsque le Niño dépasse l'équateur et descend plus bas, c'est-à-dire transforme complètement le climat. Alors revenons à celui du courant de Humboldt. Vous avez une eau pacifique qui est extrêmement froide, une des plus glacées du monde par rapport à la latitude. Et naturellement, c'est aussi une eau où, parce qu'elle est fraîche, vous aurez du plancton. Et si vous avez du plancton, vous aurez de petits poissons. Et si vous avez de petits poissons, vous aurez même des baleines et tout ce que vous voudrez. Mais à partir de là, oui.
Et si vous avez des baleines, j'allais dire, vous aurez des japonais, mais enfin, ça, c'est une autre histoire.
C'est vrai pour le Pérou, d'ailleurs. Au Pérou, si ma mémoire est bonne, c'est le taux d'immigration le plus élevé du pays.
les Japonais.
Mais en l'occurrence, là, j'étais arrêté aux baleines et nous arrivons aux otaries. Et à partir des otaries, vous aurez des îlots. Vous aurez bien sûr un tas de petits îlots le long de ces côtes. Et si vous avez des otaries, vous aurez naturellement des oiseaux parce que les oiseaux viennent mourir au Pérou et viennent surtout manger les petits poissons. Et vous allez vous retrouver dans les eaux les plus poissonneuses, les plus riches du monde à cause de ce courant froid. Ça, c'est simplement pour vous situer cette côte parce que c'est un miracle aussi. On en parlera tout à l'heure, mais ça vous situe simplement la richesse du Pacifique parce que cette mer infinie, la plus grande du monde, est également celle où vous pourriez pêcher, par laquelle vous pourriez survivre, une sorte de mer avec un accent grave qui va vous permettre de subvenir à vos moyens si vous habitez sur une côte désertique. Et en montant, je m'arrête à l'équateur. Et par le mot même d'équateur qui a été donné à ce pays qui se trouve sur l'équateur, eh bien j'ai envie de glisser sur la gauche. Je ne vous raconterai pas ce soir l'histoire de cet autre Eldorado, mais à 1000 km des côtes, vous tombez sur les Galapagos. Ces îles Galapagos qui sont le stéréotype même des îles qui sont touchées par le chaud et par le froid. Au sud des Galapagos, vous êtes en eau glacée. Au nord des Galapagos, vous pouvez vous baigner dans l'eau chaude. Donc vous avez des faunes et des flores totalement différentes, exactement à la hauteur de l'équateur. Alors pour notre histoire, puisque nous étions partis de l'Amazone, je ne perds pas le fil, vous voyez, textilement parlant c'est normal, mais on vient de passer la cordillère, on descend du côté de Guayaquil, on est dans la partie la plus chaude de l'équateur, et c'est là qu'on retrouve une jungle épaisse, qu'on retrouve cette humidité. Je veux dire par là que moi, comme indien de l'Amazone, qui ai dû sortir de mon milieu il y a quelques millénaires, par hasard, aux alentours des années 4000, 5000, 6000 avant notre ère, je retrouve autour de Guayaquil un berceau incroyable, c'est-à-dire que je retrouve mon mode de vie paradisiaque. Donc, je vais créer la première grande culture américaine. C'est une révolution qu'on a eue il y a quelques années de savoir que la première céramique, le premier tissage, les premières idées de l'art, de la religion, les premiers grands mythes sont nés, ou plus exactement, ont déjà été transmis de l'Amazonie à cette région complètement nouvelle. C'est important parce qu'après tout, je suis en train de vous raconter non seulement le début de l'Eldorado, mais le début de l'histoire vivante, de l'histoire avec un grand H de toutes les Amériques.
Tis,
Il y a 4, 5, 6 000 ans, des Indiens d'Amazonie sont partis de chez eux pour retrouver, à des milliers de kilomètres de l'autre côté du continent sud-américain, un autre endroit propice pour vivre. Maurice FC, est-ce que ces Indiens, à votre avis, étaient aussi heureux là-bas qu'au début?
Différemment. Différemment parce que, d'abord, le fait d'avoir marché, comme dans toute migration, comme dans toute idée de migration, comme dans toute transformation, je vous prends un exemple là. Il y a encore aujourd'hui en Amazonie des tribus assez curieuses qui, à l'instant où leur chef meurt, et c'est très beau, doivent rechercher une autre tribu. Ça paraît aberrant, il n'y aura pas d'autre chef. On abandonne la tribu et chaque indigène, chaque individu va chercher son nouveau paradis ailleurs jusqu'à ce que ce même paradis s'éteigne. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est produit très certainement à ce moment-là, parce que lorsqu'on se retrouve du côté équatorien, on vit différemment. L'Équateur est un pays que j'adore, c'est un des plus beaux pays, c'est peut-être le plus beau pays d'Amérique du Sud, parce que vous parliez de milliers de kilomètres. Vous avez raison, Phil. La distance amazonienne est énorme. Cette mer intérieure est énorme. Mais essayez d'imaginer maintenant, vous qui m'écoutez, la façon de saisir ce qu'est l'intérieur de ce continent. C'est-à-dire l'espèce de bulle qui dépasse du côté brésilien. C'est une mer incroyable. C'est-à-dire qu'il y a mon bras de tout à l'heure, les Andes. Et d'un côté, vous avez une mer de verdure, et de l'autre côté, vous avez un tout petit morceau, quelques kilomètres, quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres, qui forment la côte du côté gauche de l'Amérique. C'est-à-dire que l'épine dorsale, cette colonne vertébrale, est totalement décentrée. Et qu'au fond, l'autre mer, c'est bien sûr le Pacifique, qui est infini, infranchissable pratiquement. Alors, si je reviens à ce petit morceau d'équateur, ce petit débordement du côté chaud, en abandonnant les volcans enneigés, en abandonnant ce Callejón, cette partie centrale qu'on adore visiter, parce que c'est vrai que cette ambiance à 4000 mètres d'altitude, ces marchés indiens, ce côté un peu rude, est encore un autre monde. Mais lorsqu'on atteint la côte, là, eh bien tout à coup, on trouve des petits villages qui sont perdus dans des espèces de demi-marécages. Et qui sont tous sur pilotis. C'est une vision assez étrange. Vous avez des milliers comme ça de petites cabanes qui sont perchées à 5 ou 6 mètres de hauteur. Et naturellement, au moment des crues, tout cela est envahi et puis ça se retire. Mais pour ces premiers agriculteurs, c'était le terrain absolument propice à une production importante. Et puis, il y avait la mer. Enfin, en ce moment, il y a surtout des marteaux. Mais cette mer qui est toute proche et qui va permettre de découvrir des produits importants. Quand je parle de produits importants, c'est naturellement même certains produits de luxe. Je repense juste, en faisant le rapport avec les plumes de tout à l'heure pour l'Amazon, dont vous avez encore besoin et que vous allez peut-être même encore importer de ce côté-là, eh bien, vous aurez besoin, par exemple, de coquillages. Et je pense à cela parce que c'est aussi peut-être pour cela, là, nous parlons de mode, nous parlons de parure, que les gens se sont installés le long de la côte parce qu'on vient de découvrir, archéologiquement parlant, des choses assez curieuses. On a découvert, par exemple, une île sur laquelle on a déposé des milliers et des milliers et des milliers de coquillages. Imaginez-vous une sorte de coquille Saint-Jacques avec un ton intérieur, c'est-à-dire, vous savez, les nacres sont très changeants, mais là, en l'occurrence, c'est un ton orangé, extrêmement pur, extrêmement profond. Enfin, dès qu'on voit cela, c'est comme le corail, c'est quelque chose qui vous touche profondément, vous avez envie de vous en faire une perle, ou en tout cas de vous le suspendre autour du cou. Eh bien, ces coquillages, ces spondylus, ont été récoltés à 30 mètres de profondeur dans le Pacifique. Il y a des spondylus superbes à 10 mètres, et ils sont blancs. Les orangers sont à 30 mètres. Eh bien, les Indiens de l'époque ont fait en apnée, merci pour le grand bleu, une plongée systématique pour aller chercher des millions de coquillages et les entreposer sur cette île. On a retrouvé archéologiquement ces entrepôts incroyables. Et c'est vrai que cette production marine un peu inattendue va être exportée de façon extraordinaire. Alors là, vous pouvez parler de milliers de kilomètres. Nous pouvons dire qu'on va livrer cette marchandise jusqu'en Amérique centrale et qu'on va en retrouver même jusqu'au Chili. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit typiquement équatorien qui va être ainsi diffusé simplement parce que c'est l'ivoire du moment. C'est l'or du moment, c'est la parure absolue, c'est la mode. C'est la mode au sens noble du terme, au sens indien du terme. Alors revenons peut-être pour quelques instants à ces premières tribus établies en Équateur, parce que c'est le fondement de notre Eldorado, je le rappelle. Et ces gens-là, pour la première fois, vont découvrir quelque chose qui a une importance énorme. Le tissage, bien sûr. Mais également, en parallèle, l'argile. L'argile qui va imiter au départ la simple calebasse que vous utilisez tous les jours pour boire de l'eau ou pour manger. C'est-à-dire que dans l'argile, on va au départ créer une sorte de simple bol. Vous savez que l'Amérique, jusqu'à l'arrivée de Colomb, ne va jamais utiliser le tour de potier. C'est-à-dire que toutes les techniques un peu « modernes » entre guillemets ou industrielles ou artisanales développées ne le sont jamais en Amérique. Et le tour de potier n'a jamais été utile parce que l'Américain, avec le système en colombin, c'est-à-dire simplement en faisant une sorte de long... Vous savez, on faisait cela sur les tables d'écoliers hein, quand on était gosse, quand on préparait nos premiers vases, nos premiers argiles. Eh bien, on mettait simplement en rond un boudin et on montait petit à petit pour faire une spirale. Et petit à petit, vous arrivez à obtenir la forme d'une coupelle. Et puis, si vous allez un peu plus loin, vous allez même fermer tout cela dans un... Oui, on demande quelqu'un ici à première vue. Et vous finirez par le petit goulot terminal qui donne déjà l'idée de l'étrier. Là, je suis un petit peu scientifique, c'est vrai, mais cette forme en étrier est assez curieuse en Amérique. Et quand on pense... au vase de Tintin, enfin quand on voit ce vase qui se brise lorsqu'il découvre les momies dans le temple du soleil, c'est un vase Mochica, c'est un vase comme cela qui se casse. Or ce premier vase dans la première tribu, dans cette première peuplade équatorienne, eh bien elle nous a été révélée cette tribu il y a assez peu de temps. C'est-à-dire qu'on a trouvé des tombes naturellement et dans ces tombes on a remarqué qu'il y avait des tissus déjà très 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 raffinés, qu'il y avait surtout des céramiques absolument extraordinaires. Mais ce qui est fantastique, c'est que déjà aux alentours du deuxième, voire même peut-être du troisième millénaire avant notre ère, tout est déjà dit. C'est-à-dire que sur le plan mythologique, sur le plan artistique, sur le plan textile, par exemple, on a l'impression que tout est déjà écrit, que tout est déjà symbolisé par ces premiers Indiens. La seule chose qui restera à faire, c'est d'envoyer le message dans tout le reste de l'Amérique.
On a vu souvent à bord de long cours avec vous, Maurice, que des grandes découvertes, je pense par exemple à une émission que vous aviez consacrée au temps, où on avait appris avec stupeur que des Chinois s'extasiaient devant une horloge qu'ils avaient inventée eux-mêmes 5 siècles auparavant. Alors, comment se fait-il qu'en définitive, puisque tout était inventé au niveau du tissage, on soit reparti à zéro ?
On n'est pas vraiment reparti à zéro. Vous parlez de qui en parlant de zéro exactement?
Je ne veux pas citer de nom pour blesser personne.
Non, si vous prenez le tissage précolombien, ça peut être une forme d'analyse. Parce qu'après tout, pour répondre à une question comme celle-là que tout le monde se pose peut-être, c'est de savoir à partir de quoi on est capable d'inventer un tissu. Parce qu'au fond... tout à l'heure, nous étions nus. Tout à l'heure, nous étions dans la jungle et nous avons effectivement déjà utilisé quelque chose pour faire tenir les plumes. Et au fond, c'est la fibre, au départ, qui va permettre le premier filet. Je crois que la réponse, même équatorienne, ou pour toute la côte désertique qui se trouve en dessous, là je parle du Pérou, les choses qu'on a retrouvées archéologiquement, c'est un simple filet, le filet le plus bête du monde, c'est celui que vous faites simplement avec une aiguille ou un os ou une arête d'un poisson un peu grand, et puis vous faites cette espèce de zigzag tout simple, et puis vous repassez un deuxième fil par-dedans, et finalement vous arrivez à obtenir le filet le plus élémentaire. Parce qu'après tout, le textile, c'est ça, c'est savoir utiliser un fil qui deviendra chaîne, et un fil qui deviendra trame et qui petit à petit va permettre à la fois la souplesse et en même temps la tenue de cette fibre. Alors bien sûr que l'invention suivante, c'est naturellement pour la région qui nous occupe la découverte d'une plante qui au départ est sauvage, c'est-à-dire le coton. Le coton qu'on va découvrir un peu partout dans le monde, parce qu'après tout, la seule différence entre un coton égyptien et un coton péruvien, c'est le nombre de chromosomes. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il en a à faire de ces chromosomes-là ? Eh bien oui, ça m'intéresse parce que ça me prouve simplement que le coton du Pérou n'est pas venu d'Égypte et que le coton d'Égypte n'est pas venu du Pérou. Pour moi, c'est déjà très important de savoir que cette mer centrale, l'Atlantique, n'a pas forcément été traversée par le coton. Je veux dire la graine, en tout cas, et donc la culture. Eh bien, ce coton de départ, il va permettre très rapidement de tisser des choses complexes, parce que ce qui est intéressant dans l'art précolombien, c'est qu'à l'instant où je dis fil, je dis naturellement pouvoir. On en a déjà un petit peu parlé la semaine passée, mais le fil, si vous le prenez, vous le touchez en deux brins, vous le tordez sur lui-même, ça c'est le travail de mon arachné de tout à l'heure, l'araignée qui prend simplement le fil et qui le tord. Or, vous savez peut-être qu'en tordant un fil, le fil refuse d'être tordu. Et qu'en définitive, si vous lâchez le fil, eh bien, obligatoirement, il se reprend sur lui-même. C'est-à-dire qu'il prend une forme un peu bizarre et qu'il refuse de rester bien droit. Donc, pour avoir un véritable fil, il faut un second fil. Et il faut le tordre exactement dans le sens inverse. Et la double tension de ces deux fils va permettre, effectivement, ce qu'on appelle le fil à double brin, qui permet de conserver une tension naturelle et qui va en même temps vous permettre de travailler ce fil, tout simplement. Donc vous pourrez aussi le stocker au départ, le tirer en chaîne, en trame, le travailler tout simplement. Donc ça c'est une toute petite invention, mais j'en parle quand même parce que ça me paraît intéressant. Et puis à partir de là, à partir du coton, à partir de ces fibres végétales que vous allez petit à petit cultiver, on vient de commencer l'agriculture, on vient de planter nos grandes maïs, eh bien vous allez obligatoirement créer la première société. Et lorsque je parle de société, je parle naturellement de quelqu'un qui va vivre en communauté. C'est-à-dire que vous allez inventer le premier village, parce que jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai raconté bougeait. Je veux dire par là que votre Indien à plume de tout à l'heure, celui qui est arrivé jusqu'en Équateur, était un Indien nomade, un chasseur, un cueilleur, mais qui au fond ne savait pas encore rester et subvenir à ses moyens dans un seul endroit. Et c'est ça la découverte de cette partie d'Équateur, ce début de notre Eldorado, ben c'est un Eldorado qui se fixe tout à coup. Et en se fixant, on va enterrer. En enterrant, on va mettre des offrandes, on va inventer l'au-delà, on va inventer la politique, on va inventer le premier sacrifice humain, on va inventer le premier temple, on va surélever une petite hutte de quelques centimètres, on va la décorer un peu mieux, on mettra quelques plumes supplémentaires sur le prêtre en question, et la civilisation, la société va pouvoir commencer. Ça m'intéressait de parler de cela parce qu'en même temps, lorsqu'on veut parler de textile, là j'y pense comme ça, un peu par tiroir interposé, si j'ai parlé du coton, obligatoirement vous allez peut-être chercher d'autres fibres. Je ne sais pas si je pense par exemple au luxe absolu de l'empereur Inca. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour faire une belle tunique à l'empereur des Incas ? Celui que j'appelle en fait l'Inca tout court, parce qu'empereur ne lui correspond pas. Ben, on allait chercher les chauves-souris dans une grotte, et puis on allait leur tirer les quelques petits poils extrêmement doux qui existent sur les chauves-souris, et on allait tisser la chose la plus incroyable du monde. Quand on parle de la vigogne, est-ce que vous avez déjà touché de la vigogne ? Une chose qui est pratiquement interdite, la vigogne, aujourd'hui. On a beaucoup de peine à en trouver, parce que d'abord, la vigogne a failli disparaître dans ces hautes terres du Pérou. Lorsqu'on a touché une vigogne, mon Dieu, on vendrait son premier cachemire, je vous assure. Phil ?
Oui, je suis avec vous, Maurice. Ne vous inquiétez pas.
Oh, je le savais.
Je n'ai jamais touché de vigogne, pas plus que de fil de chauve-souris. À propos, est-ce que les chauves-souris étaient d'accord qu'on leur pique leurs petits poils ?
Écoutez, je crois qu'elles étaient tellement heureuses de le faire pour l'Inca. Sachez quand même une chose. Elles savaient qu'elles ne seraient portées qu'une seule fois, parce que l'Inca ne pouvait porter un tissu qu'une seule fois. Et il se changeait 10 fois par jour. Ensuite, on brûlait cérémoniellement ces tissus. Il ne buvait que dans un seul verre. Il n'avait qu'un seul usage de tout ce qui l'approchait.
Un long cours, comme tous les mercredis soirs sur Radio Lac, mais un long cours un peu particulier, puisque Maurice et Steve, vous êtes sous la tente de Genève Mode. C'est bien pour ça qu'on parle ce soir de textile, mais peut-être pas encore de ce que Paco Rabanne ou d'autres grands couturiers peuvent manier et peuvent...
Avec un peu de chauve-souris, vous savez, qu'il serait peut-être content d'avoir quelques poils de chauve-souris ou qui gagne pour sa prochaine collection. Non mais en reparlant de ces animaux, la chauve-souris, la bigogne, pour moi ça reste quelque chose d'assez sauvage. Encore que la bigogne a été... Il y a eu des chasses pour obtenir le poil de bigogne qui ont été extraordinaires. C'était l'animal qui appartenait totalement au soleil. Essayez de voir maintenant ces hauts plateaux péruviens, cette herbe jaune, cette sorte d'ambiance comme cela dorée, et à l'intérieur de ce paysage absolument dantesque avec des hauts sommets à 5, 6, voire 7 000 mètres, avec ce côté enneigé, ce côté rocheux, ce côté glacé, moins 15 la nuit, plus 30 la journée, cet immense haut plateau, le plus grand du monde, vous avez là en même temps ces troupeaux énormes de bigognes à l'époque précolombienne, et puis l'Inca qui, à pied bien sûr, car le seul autre animal qui pouvait exister, c'était l'alpaca ou le lama, et qu'une charge que 20 ou 30 kilos au grand maximum, bien ces bigognes en troupeau étaient réunies par des gens qui se tenaient la main. C'est extraordinaire. Pour obtenir ce poil sacré, ce textile extraordinaire, qui n'appartenait qu'au soleil, donc qu'à l'Inca, les Indiens, les Quechua, les gens de la région de Cusco, de ces hauts plateaux, se donner la main et petit à petit fermer un cercle immense sur des dizaines, peut-être même des centaines de kilomètres, et petit à petit réunissaient ces bigognes sauvages en troupeaux. À partir de là, il ne restait qu'à les tondre ou à les chasser si l'Inca avait décidé d'en tuer quelques-unes. Ce n'est pas une viande extraordinaire, encore que quand elles sont jeunes. Et ensuite, après les avoir tondues, on les relâchait. Mais c'est beau, cette idée d'une société qui se tient la main pour obtenir le meilleur d'elle-même et surtout le meilleur d'animaux qui ne sont pas encore complètement domestiques.
Est-ce qu'ils n'avaient pas inventé quelque part la pêche industrielle ?
Ah si, là, si vous parlez du Pérou ou de notre Équateur, vous voyez qu'on n'a pas été très loin ce soir. Je veux dire, on est dans le textile, on vient de l'inventer. J'ai parlé de l'alpaca, j'ai parlé du lama, j'ai parlé de la bigogne. Mais c'est vrai que vous me faites penser, en parlant de pêche, à la baleine. Ben, quand on est un tout premier habitants de cette région côtière du Pacifique, non seulement on utilisera nos premiers textiles pour aller chercher du poisson, mais on utilisera, vous savez, ces énormes côtes de baleines. Eh bien, on les utilisait pour faire une tente de camping. C'est-à-dire que c'est comme cela qu'ont vécu ces premiers pêcheurs au bord de l'eau, simplement à l'abri des vents, à l'abri de ces courants froids, cachés sous des peaux, et ces énormes nervures comme cela, ces côtes de baleines qui leur servaient de poutraison. Et à partir de là, c'est vrai qu'on comprend que s'ils sont installés au bord du Pacifique, c'est peut-être aussi à cause des oiseaux qui vont mourir au Pérou, c'est-à-dire de ces îles incroyables et de cette richesse maritime qui va leur offrir la vie. Car vous trouvez tout ce que vous désirez dans cette région, c'est-à-dire qu'il suffit de lancer le filet et vous savez que le Pérou est encore le plus grand pays
producteur
de pêche, enfin producteur de poisson du monde et de la farine de poisson. Vous pouvez faire souvent, lorsque vous partez de Lima, vous faites 1000 km, vous arrivez à Chimborazo et c'est vrai que la seule odeur qui vous reste dans le nez sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est l'odeur de la farine de poisson. C'est pas forcément très agréable à l'heure de la soupe, ça je vous avoue que c'est assez surprenant même de se trouver dans une ambiance pareille. Mais pour terminer notre voyage de ce soir à propos de cette découverte des premiers textiles, je crois que ce qui est surtout extraordinaire, c'est de descendre maintenant un peu le long des côtes, c'est-à-dire de suivre nos baleiniers, si vous voulez, et de se retrouver dans ce désert côtier. J'ai cité Lima, et j'ai parlé de 1000 km au nord de Lima. Eh bien, vous faites 1000 km pour aller jusqu'à Trujillo, par exemple. Trujillo, qui est une ville très importante, parce que autour de cette ville, à 1000 km au nord de Lima, je le rappelle, se sont développées des cultures très, très, très précieuses pour la connaissance du monde précolombien. C'est celle des Mochicas, c'est celle de Chanchan, les Chimors. Mais je ne vais pas vous citer seulement des noms. Je voudrais seulement vous faire comprendre ce qu'est véritablement la côte péruvienne, car vous pourriez faire 1000 km au sud de la même manière et atteindre petit à petit le Chili. Ce qui est important, c'est que maintenant, lorsque nous descendons du côté du courant de Humboldt, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire du côté de ce courant froid, vous allez trouver une terre qui, dès que vous descendez de 5000 mètres, de 6000 mètres d'altitude, plus vous descendez sur la côte, plus vous allez trouver des régions désertiques. C'est-à-dire qu'à l'instant où vous êtes sur la côte pacifique, sur 30 ou 40 kilomètres, et ceci sur des milliers de kilomètres, eh bien, vous allez retrouver un désert parfait. C'est un désert, enfin, à mon avis, un des déserts les plus parfaits du monde. Je crois même que lors des grandes expériences pour la NASA, on a utilisé par exemple le désert d'Atacama comme étant le seul du monde où il n'y a plus aucune vie du tout. C'est-à-dire c'est vraiment l'absolu du désert. Et le long de ces côtes, il y a de la vie, il y a eu des Indiens, il y a eu des cultures, tous les 20, 30, 100, 200 kilomètres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tout petit robinet qui est resté ouvert. Qui est resté ouvert du sommet des Andes. Nous étions à 6000 mètres d'altitude et sur quelques dizaines de kilomètres, on se retrouvera à zéro. Eh bien, ces petits robinets, c'est la fonte des neiges, bien sûr, et ce sont ces petites vallées qui vont descendre jusqu'au Pacifique. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les régions qui sont encore vaguement arrosées par le filet d'eau qui reste au bout lorsqu'il pénètre dans le Pacifique, dans ces régions-là, il ne pleut pas depuis 10 000 ans, 15 000 ans parfois. Et au fond, ce désert absolu va être utilisé par l'homme dans sa partie mouillée, c'est-à-dire simplement dans l'endroit où le filet d'eau existe encore. Et là, on va développer une première agriculture. On a une succession d'oasis, si vous voulez. C'est-à-dire, quand vous passez, enfin, vous prenez un bus depuis Lima et vous descendez dans le sud, sur 400 km, vous aurez une dizaine de vallées comme cela. Tout à coup, vous passez du sable absolu au vert absolu. Mais un vert qui va tout vous fournir. C'est-à-dire que vous allez trouver des plantations incroyables et vous allez trouver une richesse fantastique. Eh bien, il a fallu des milliers d'années et une sorte de réseau, comme une sorte de tissage d'ailleurs. Ça fait terriblement penser au tissage. Je veux dire par là qu'il y a eu, au cours des temps, des centaines de kilomètres de canaux d'irrigation qui vont être creusés sous le sol de ces vallées afin de continuer à humidifier tout au long de l'année ces cultures que l'homme devait naturellement avoir pour survivre. Et c'est ça le miracle que j'aimerais vous faire sentir maintenant, c'est que vous avez cette verdure et en moins de 10 cm, c'est-à-dire lorsque vous regrimpez sur le bord de ces vallées, vous retombez dans un désert absolu. Et c'est dans ce désert absolu qu'on a retrouvé les plus beaux tissus du monde. Vous m'avez suivi, c'est-à-dire que ces premières cultures ont cultivé le coton, et on le fait encore, un des plus beaux cotons du monde. Ils ont reçu de la laine de vigogne, d'alpaca, des hauts sommets. Et dans ces petites vallées, qui sont des miracles absolus, eh bien, on va développer naturellement un artisanat fantastique, la céramique de tout à l'heure, mais ce tissage qui va permettre ensuite, symboliquement de nouveau, d'envelopper les morts, ces fameux fardeaux. Ce sont les millions, je dis bien, les millions de momies que l'on va retrouver au bord de chacune de ces vallées. Il y avait un tel respect pour le vert, pour la végétation, pour le côté agricole, que personne n'a jamais mis un pied dans ces vallées arrosées. Donc on vivait, on posait sa maison dans le sable absolu, on enterrait ses morts à quelques mètres au-delà, dans des zones funéraires où, je vous dis, on a parfois des milliers de momies qui ont été répertoriées. Aujourd'hui, lorsqu'on pénètre dans ces champs de tombes, on a l'impression de se trouver dans des champs de bombardement. Je veux dire par là qu'on a l'impression que tout a été bombardé parce que les fouilleurs clandestins, surtout, ont creusé chacune de ces tombes pour aller y chercher ces trésors, c'est-à-dire de l'or, des masques d'or, des bracelets d'or, tout ce que vous pouvez rêver de l'Eldorado s'y retrouvait, des céramiques par dizaines pour chaque enterré, et surtout, non pas des mètres, mais parfois des kilomètres de tissu qui emballent comme un cocon le mort afin qu'il puisse voyager dans l'au-delà. C'est vraiment l'idée de la chrysalide. Vous voyez qu'on est presque dans l'idée du ver à soie. On est véritablement dans cette fonction du tissu qui est merveilleuse chez le précolombien et qui, dans l'au-delà, lui fournit ce qui va envelopper son âme pour l'éternité. C'est une très belle image. Mais sachez aussi que les tissus les plus incroyables du monde ont été découverts dans ces tombes. J'aimerais en parler, peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'on pourrait peut-être un peu changer de sujet, parce que nous parlerons peut-être de Machu Picchu, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce sujet, parce qu'on vient à peine de l'ouvrir, c'est-à-dire ouvrir ces tombes ensemble et aller déballer ces momies. Parce que quand on se retrouve, essayez de songer à ce que ça représente. Je regarde encore le décor que j'ai sous les yeux. Je vois un décor qui est très beau d'ailleurs, qui fait penser à une grande tenture qui est simplement peinte sur la paroi d'en face et qui doit atteindre 30 ou 40 mètres de longueur. Eh bien, cette tenture est à peu près la moitié, dans sa longueur, de ce qu'un précolombien a été capable de faire avec un seul fil. Je veux dire que le tissu le plus fantastique du monde en dimension fait 30 mètres sur 10 mètres avec un seul fil de A jusqu'à Z. Alors ça, J'en ai déjà un peu parlé la semaine passée, mais c'est vraiment l'aspect le plus incroyablement magique qu'on ait donné au mot fil et au mot textile. Parce qu'il ne s'agit plus de la mode ni de la plume de tout à l'heure, mais c'est vraiment peut-être le même langage. Quand je me mets une plume sur la tête en Amazon, c'est pour me charger de pouvoir. Quand je décide d'utiliser un fil de 180 km de longueur, c'est que je décide de rentrer dans un sujet au début de mon kilométrage et de n'en sortir qu'à la fin de mon kilométrage. C'est-à-dire naître un jour et mourir un jour. Donc un tissu devient un élément vivant, porteur d'un message, et qui sur le plan, comment dire, intrinsèque, devient une matière qui a une âme. Or, c'est très magique, le précolombien. L'Eldorado est un monde magique. Et dans le textile, je crois que ce sont les gens qui ont le mieux atteint ce genre de perfection.
Je dois vous avouer, Maurice, que vous avez quand même mis un peu l'eau à la bouche par rapport à ces textiles-là, à ces tissus-là. Il faudra quand même nous promettre de consacrer un des prochains longs cours, non seulement à l'Eldorado, mais à ces tissus.
Volontiers, Phil. Mmh. Et ça nous permettra même de découvrir des théories incroyables, celle de Nazca en particulier. Mmh.
La semaine prochaine, nous parlerons de Machu Picchu. Je sais que certains auditeurs attendent avec impatience Machu Picchu. Il avait été annoncé pour la semaine dernière.
C'est vrai.
Puis Genève Mode oblige, on a décidé d'adopter cette formule. Et mercredi prochain, on retournera à la formule de long cours telle que vous pouvez l'écouter traditionnellement, de 19h à 20h tous les mercredis, avec le Machu Picchu. En deux mots, c'est un site magique.
C'est la suite de l'aventure de ce soir, et peut-être que l'on va voir que symboliquement parlant, en parlant d'une forme, en parlant d'une image, Machu Picchu, c'est aussi l'animal de la jungle, c'est en même temps tout ce qui part de l'Amazone de tout à l'heure et qui explose sur les hauts plateaux pour devenir le centre du monde inca.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi a servi Machu Picchu ?
Oui, je crois qu'on peut dire que c'est un lieu de force d'abord.
Un lieu de force qu'on vous propose de découvrir mercredi prochain, entre 19h et 20h, dans long cours. Merci Maurice Efti.